Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Les effronter.
Avec Geneviève Pettersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effronter.
On reçoit la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui a déposé ce matin un projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Madame Lebel, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
Absolument. Ça faisait longtemps qu'il y avait des discussions puis qu'il y avait des demandes de ce sens-là. D'ailleurs, le Barreau du Québec en a fait une demande, la protectrice du citoyen également. Donc, on y est finalement arrivé.
Qu'est-ce que ça vient changer?
Ça vient changer beaucoup de choses. Ça vient abolir totalement le délai de prescription. Les prescriptions sont quand même à la base de notre droit civil. Donc, ça vient abolir le délai de prescription pour certaines infractions particulières. Il faut vraiment le dire que c'est dans le contexte des agressions sexuelles, des violences qui sont subies pendant l'enfance, des violences conjugales, parce que c'est ce type d'agression-là a le contexte particulier que souvent, bon, avant même que la victime réalise qu'elle a été agressée, qu'elle réalise les torts qu'elle a subis, qu'elle soit prête même à en discuter plusieurs années. C'est un long cheminement vers la guérison, vers une certaine, j'allais dire, une certaine réparation qui peut lui permettre de passer à l'action. Donc, c'est un contexte extrêmement particulier où d'avoir cette espèce de compte à rebours-là sur une réflexion, sur une guérison était un frein là, à l'accès à la justice. Dans le contexte civil.
C'est quand même surprenant, Madame Lebel, que le Québec, avec l'île du Prince-Édouard, on était la seule province canadienne à conserver ce délai de prescription pour le type de crimes que sont les crimes à caractère sexuel. Pourquoi on a tardé autant? Qu'est-ce qui nous empêchait d'aller de l'avant avec ça?
Bon, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question-là. J'étais pas là naturellement avant. On a quand même fait un grand pas, là, le Québec. Faut le noter en 2013 par l'augmentation du délai jusqu'à une période de 30 ans. C'est quand même assez significatif d'avoir un délai de prescription de 30 ans. Donc, on avait fait un grand pas dans la bonne direction. Je pense qu'il fallait. Il y a des impacts, là. Puis je veux pas rentrer dans un jargon juridique. C'est pas l'objet du propos, mais je vous le dis, la prescription est quand même le fondement de la stabilité en droit civil d'abolir un délai de prescription, c'est quand même, au niveau juridique, c'est un impact extrêmement important pour les victimes, ce geste d'accès à la justice. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire nécessairement à la légère non plus. Donc, ça demandait une réflexion extrêmement bien mûrie, puis s'assurer de bien faire le tour de la question. Et surtout, on a fait le pas supplémentaire, puis je pense que c'est important de le dire, que c'est rétroactif. Hein? C'est pas juste pour le futur.
Mais c'est ça, moi, donc, ma question, c'était si, par exemple, une victime dont le cas aurait été rejeté dans le passé à cause du délai de prescription, est-ce que cette victime-là pourrait retourner aujourd'hui au tribunal?
Oui. C'est l'unique motif. Quand la décision du juge à l'époque était le simple fait du passage du temps. C'est-à-dire, vous avez déposé trop tard, je regarde même pas votre dossier, je peux pas vous entendre. Elle a, cette personne-là, 3 ans à partir de l'adoption du projet de loi. Elle aura, parce qu'il n'est pas adopté encore, naturellement, elle aura 3 ans pour intenter à nouveau sa poursuite. Il faut quand même circonscrire tout ça parce qu'il faut quand même garder une certaine stabilité juridique, mais il faut comprendre que la personne, à l'époque, dont la cause a été rejetée, le cheminement dont je parlais tantôt, l'acceptation, la compréhension du préjudice qu'elle a subi, ce chemin-là est déjà fait, là. Elle était déjà prête à déposer. Donc, cette personne-là aura 3 ans pour le refaire. Dans le cas de la personne qui n'a jamais déposé d'action, présentement, elle a le temps nécessaire parce qu'on est venu même pour le passé, parce qu'il y a une certaine époque avant 2013, il faut se rappeler que c'était 3 ans, la prescription. Ça, c'était extrêmement court là, pour ces gens-là. Donc, il y a des gens qui, avant 2013, ont peut-être attendu 5 ou 6 ans simplement avant de déposer poursuite. Et comme ça faisait plus de 3 ans, ont été rejetés sur la base de l'écoulement du temps, simplement, l'espèce de compte à rebours. Donc, c'est un petit peu technique, je veux pas qu'on se perde là-dedans, mais oui, on réouvre beaucoup de possibilités, disons-le comme ça.
Puis, ben justement, sortons-en un peu de la technique, parce que ce sont des histoires humaines, ces histoires-là, et parfois, qui sont publiées dans les journaux, et souvent, quand on entend des histoires d'agressions sexuelles qui se sont déroulées, il y a quelque chose comme, je sais pas moi, 40, 50 ans, souvent la première réaction qu'on a quand on n'a pas été victime de ce genre de crime, je pense, c'est de se dire, mais pourquoi la personne a attendu aussi longtemps pour parler, pour porter plainte?
Mais ça, c'est très personnel. C'est très personnel à chacun, mais ce qu'on comprend quand on se penche sur la question, puis on se donne la peine là, de fouiller un peu, c'est que souvent, là, bon, si on parle de sévices subis pendant l'enfance, à titre d'exemple, souvent il y a de la répression. Je ne suis pas psychologue, je ne veux pas rentrer dans des termes où je vais me faire taper sur les doigts, mais tu sais, il y a de la répression, on peut mettre ça de côté, on peut mettre ça sous le tapis pour continuer à vivre. Et des fois, ça ressort longtemps après pour diverses raisons. Des fois, il y a même des victimes, on le voit souvent dans le milieu de l'agression sexuelle et violence conjugale, où la victime se croit en partie responsable et finit par se convaincre qu'elle n'est pas victime pour continuer à vivre puis à avancer. Et le temps où elle réalise non seulement qu'elle est victime, que c'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas responsable de ces gestes-là, que ça appartient à l'agresseur, cette responsabilité-là, ben après ça, c'est de trouver la force et des conséquences aussi des fois, hein, parce que de poursuivre, c'est aussi dévoiler.
Des fois, c'est dans la famille aussi.
Et voilà, la famille, les enfants, des fois, une personne, c'est peut-être son ex-conjoint, il y a des enfants, elle attend peut-être que les enfants soient grands, elle attend peut-être... Il y a une multitude de facteurs dans ces circonstances-là qui font en sorte qu'il faut pas regarder ce type de dossier-là, ce type d'agression-là, comme un vol dans une maison ou comme même une agression suivie par un étranger. Je veux dire, je suis pas en train de dire que les personnes qui sont agressées par des étrangers ont pas de séquelles, mais les séquelles sont pas, on n'a pas cette culpabilisation-là souvent qui vient avec ça.
Je vous entends.
Et là, je fais des grands. Oui. Je fais ça en grand trait alors que les nuances sont infinies. Là.
Bien évidemment. Puis je vous entendais plus tôt lorsque vous avez annoncé la réouverture des palais de justice dire qu'on allait tirer des leçons de la COVID-19, que la modernisation, si on veut, de l'appareil judiciaire, entre autres, allait plus vite que l'on pensait. Est-ce qu'il y aurait des conséquences positives pour les victimes d'agressions sexuelles, mais aussi de violences conjugales?
Directement relié à la COVID.
Cette modernisation de l'appareil judiciaire.
Peut-être, oui. Il y aura sûrement une meilleure accessibilité à la justice. C'est sûr que là, on est vraiment dans l'avènement des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. C'est peut-être moins bien adapté pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales, qui ont quand même besoin d'un accompagnement beaucoup plus près qu'à travers un écran. Donc, je peux peut-être penser d'entrée de jeu vous dire que la modernisation comme telle est peut-être pas ce sont peut-être pas les dossiers les plus appropriés pour les forcer, mais ça n'empêche pas que peut-être, effectivement, prenons le cas, je vais reprendre, dans le milieu physique, présentiel, il y avait toutes sortes de méthodes aussi pour aider à la victime à témoigner un paravent, des fois la victime témoignait dans une autre salle. Donc, le moyen technologique va aussi nous aider peut-être à faire en sorte de mettre une distance entre la victime et son présumé agresseur pour lui donner cette espèce de solidité-là supplémentaire pour être capable de mieux livrer son histoire. Donc, oui, on peut penser que la technologie va en faire partie là, de cette cheminement-là.
En terminant, Mme Lebel, vous faites partie d'un comité transpartisan que vous formez avec Hélène David, Christine Labrie et Véronique Yvon. C'est un comité qui se penche notamment sur les questions de violence conjugale et des crimes sexuels, d'agression sexuelle. J'imagine que, bon, peut-être les travaux de ce comité-là ont été ralentis par la COVID, mais où est-ce que vous en êtes avec tout ça?
Bon, il y a eu un petit ralentissement momentané, je vous cacherai pas là, puis en toute transparence, dans les premières semaines, parce que ces gens-là se rencontraient en personne, donc il a fallu comme tout le monde qu'il y ait une adaptation pour que le comité reprenne. Mais le comité a repris ses travaux rapidement. J'ai même assisté à une séance où on entendait des experts sur divers sujets pour nourrir les réflexions des gens autour de la table qui s'est fait par visioconférence. Donc non, les travaux se sont poursuivis. Il y a peut-être eu un petit ralentissement momentané, là, mais on n'est pas tombé en arrêt. Donc, on continue à regarder les façons d'accompagner. D'ailleurs, hier, on a annoncé avec Jury Pop que ce qu'on avait annoncé en janvier, en décembre, je pense.
On les a eus ici à l'émission hier pour nous expliquer cette initiative-là.
Ça découle des travaux là, du comité, donc on continue, on poursuit ça en continu.
Justement, Mme Lebel, vous m'ouvrez la porte là, en lien avec cette entrevue-là qu'on a fait hier avec Jury Pop. Est-ce que l'idée d'un tribunal dédié aux agressions sexuelles continue de faire son chemin?
Mais on a demandé au comité de tout mettre sur la table, OK? Donc ça fait partie des options qu'ils examinent. Faut comprendre que l'idée d'un tribunal spécialisé, c'est pas l'idée d'avoir un bâtiment pignon sur rue où on va marquer tribunal des agressions sexuelles. C'est plutôt l'idée d'avoir des intervenants. Non, c'est ça, c'est l'idée d'avoir des intervenants spécialisés. Donc, ce tribunal-là peut être virtuel dans le sens où ce qui est important, c'est que les intervenants qui agissent auprès dans le système de justice, qui agissent auprès des victimes d'agressions sexuelles et victimes conjugales, soient pas juridiquement formés. Les juges sont capables, sont formés juridiquement, mais qu'ils aient la formation nécessaire pour comprendre le contexte particulier dans lequel ces agressions-là ont lieu.
Madame Lebel, merci. Sonia Lebel, qui est députée caquiste de Champlain et ministre de la Justice, à propos du dépôt de ce projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Merci.